sérieux, dit donc Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Vous voyez, en fait, ça rejoint tout à fait le questionnement d'Hamlet, « to be or not to be ». That is the question, effectivement. Hein, Hamlet, où il voit le mal partout, dans sa propre famille, il se dit, mais vraiment, c'est incroyable, en étant comme ça, dans un monde de bruit et de fureur, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être vécu? Et tous les existentialistes modernes, justement, ont prôné cette absurdité de la vie, qui se confronte à ce mystère qui semble effectivement insoluble, parce qu'on va le voir, il est insoluble sans la révélation qui nous donne de comprendre quelle est son origine. Vous comprenez ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mystère du le mal est un mystère dont l'Église seule, enfin Dieu et l'Église, à travers la tradition judéo-chrétienne, pour être plus précise, nous donne une réponse. Et seule cette tradition-là nous donne une réponse. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre qu'il est absolument nécessaire d'entrer dans le dogme du péché originel, pour comprendre quoi que ce soit à notre condition humaine. Vous voyez, ce dogme qui est très malmené à l'heure actuelle, parce que précisément on refuse d'écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu véritablement qui nous parle, avec des mots humains, mais c'est Dieu qui nous parle. Vous avez Jean-Paul Sartre aussi, dans la nausée, qui d'ailleurs exprime tout le fond de son œuvre. Roquentin, donc son personnage principal, est assis sur un banc de jardin public. Il regarde de grandes racines d'arbres qui poussent sous le banc. Elles lui paraissent visqueuses, obscènes même. Elles sont, dit-il, de trop. Elles sont de trop. Vous voyez, c'est tout à fait l'inverse du consentement à la vie du petit traité de la joie de Martin Stephens. Je vous renvoie d'ailleurs à ce petit livre magnifique. Vous voyez, elles sont de trop. Comme une réalité qui est là, qui s'impose à nous, mais qui n'a pas de sens. Il regarde ses racines, elle ne voit que le trop pour toujours. Pourquoi est-ce là ? Et ses racines finissent par lui donner la nausée de l'absurdité de l'existence. Elles sont de trop, et comme moi je suis de trop. Bref. Et lorsqu'il sort du jardin public, voilà la profession de foi de Jean-Paul Sartre et de tout notre monde contemporain. Roquentin se retourne et a l'impression que le jardin avait quelque chose à lui dire, nous dit Sartre. Et Roquentin tourne les talons, claque des talons. Vous voyez, c'est bah, grande décision. Oui, chef. Et qu'est-ce qu'il dit ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nothing. Voilà. Voilà quelle est la philosophie nihiliste de notre monde. Il n'y a rien. Alors la grande question, c'est... encore une fois, c'est un questionnement qui vient, qui est légitime. À partir du moment où effectivement on s'est coupé de ce que le réel avait et pouvait nous dire. Et c'est ça le grand problème de cette rupture de la philosophie moderne, enfin qui s'enracine plus loin que qui va plus loin que Sartre et Camus. C'est la rupture donc de l'homme moderne. Rupture avec le sens que le réel peut nous donner et qu'une métaphysique chrétienne, dont on ne veut plus, avait su lire. À savoir que tout ce qui existe provient d'une cause première qui préexiste à tout ce qui est et sans laquelle rien ne serait. Vous voyez ? Donc cette réponse finalement à « il n'y a rien » eh bien, la réponse chrétienne, si, parce que effectivement, rien ne pourrait être, mais tout ce qui existe n'existerait pas s'il n'y avait pas une cause pour lui donner son existence. Et oui. Alors vous comprenez que la philosophie contemporaine s'est coupée de toute métaphysique, métaphysique qui est compréhension du réel, voyez, qui s'efforce de comprendre, de prendre avec, au sens de, voyez, de faire sien ce réel qui nous est donné, et que je ne conditionne pas, c'est lui qui me conditionne. Voyez, c'est tout le problème de l'idéalisme moderne qui pense que d'abord la réflexion provient et le sens de la vie provient de celui qu'il pense. Bon, mais je vais, autrement dit, pour faire plus simple, si nous avons l'être, nous ne sommes pas l'être. Mais puisque nous existons, il faut bien que ce soit notre principe, qu'il y ait un principe, une source si vous voulez, une cause première, qui soit l'être qui n'est qu'être, dont l'essence est son existence, comme dira saint Thomas d'Aquin, et qui se révèle plus simplement, mais c'est de la métaphysique aussi, à Moïse, Exode 3,14, hein, c'est le pi chrétien, je dis toujours, hein, 3,14, Exode 3,14, je suis celui qui est. Mais magnifique. Gilson dira, c'est une métaphysique de l'Exode. C'est la métaphysique de l'Exode, de laquelle nous n'aurions jamais dû nous éloigner. Hein. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, hein, c'est Georges Brassens ça. Hein. J'aurais jamais dû, on n'aurait jamais dû s'éloigner du buisson ardent. Hein, l'arbre qui brûle sans se consumer, vous comprenez, c'est ça le problème, c'est que l'homme ne voit pas, il s'éloigne de son arbre, il n'aurait jamais dû s'éloigner de son arbre, voilà. Et on va voir que d'ailleurs c'est une question d'arbre, on va retrouver les arbres dans la Genèse, il y en a deux, mais n'anticipons pas. Il faut aimer les arbres, hein, vous savez, moi j'aime beaucoup les arbres, ils sont beaucoup à nous enseigner les arbres. Mais la pensée philosophique donc de Sartre et des maîtres du soupçon, hein, les Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, tous les existentialistes et scientistes modernes refusent justement toute perspective métaphysique d'investigation du réel, ou la déclarent impossible, puisque la connaissance de l'être en tant qu'être, qui était le domaine d'investigation des Grecs, de toute la sagesse, la philosophie grecque et chrétienne aussi, hein, voyez, eh bien maintenant elle est largement invalidée, surtout parce que Kant nous a dit qu'on était incapable, par notre comprenoir, notre intelligence était incapable de vrai. C'est pas possible. Il n'y a que des phénomènes, on peut décrire les phénomènes. Alors, pensez-vous, c'est super intéressant de décrire les phénomènes. Mais non. Parce que la philosophie, c'est une science de la sagesse qui essaye de savoir ce qu'est la réalité, et même, oh, le gros mot que je vais sortir, la vérité des choses. Oh, mais mon père, vous n'y pensez pas, la vérité. Mais enfin, vous avez la vérité, voilà, alors c'est bien les cathos, ils ont la vérité. Non, messieurs, dames, mes frères et sœurs, je n'ai pas la vérité. Nous n'avons pas la vérité, c'est la vérité qui nous a. Alors maintenant, la métaphysique invalide largement, voyez, ce que pourtant la sagesse chrétienne et grecque, hein, sur le fondement de la philosophie grecque, hein, Benoît XVI nous a rappelé à juste titre combien la sagesse chrétienne avait de dettes à l'égard de la sagesse grecque. Mais maintenant, eh bien, tout est invalidé, la pensée moderne relève fondamentalement de ce « il n'y a rien face au mystère de l'existence ». Donc par une décision libre, et vous allez voir que c'est vraiment lié à notre liberté, vous allez voir, hein, le mystère du mal est véritablement lié à notre liberté, donc par une décision libre, je puis dire non, comme Roquentin de la Nausée, à lire dans le réel le sens qui s'y trouve caché et qui me parle d'un Dieu entièrement libre qui nous a créés dans la liberté précisément et qui nous entraîne dans sa liberté. Et cette liberté, quelle est-elle? C'est la liberté d'aimer. On n'est libre que dès lors qu'on aime. Attention, mais qu'on aime à la manière de Dieu. Comme Dieu. Bon. Et nous allons essayer de le voir dans cette session, du point de vue donc théologique, hein, tout le mystère du mal relève du mystère donc de la liberté humaine. La liberté des hommes, depuis les origines, se trouve face à la liberté de Dieu. Et cette liberté humaine est la condition sine qua non pour que le dialogue, l'alliance, s'établisse avec un Dieu dont l'amour est sans cesse présent, mais qui ne se découvre, qu'à la mesure de notre consentement à l'accueillir comme un don. C'est, vous voyez, c'est tout l'inverse de la fermeture, mais possible, de Roquentin dans le roman de Sartre. Voilà, le jardin. Et c'est, vous voyez, c'est cruel. C'est le jardin composé d'arbres, de racines, enfin de... Le jardin, ça commence dans un jardin, vous savez, l'écriture, et ça se termine dans un jardin. Ça se passe, c'est dans un jardin que ça se passe. Tout se passe dans le jardin. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire que Roquentin, justement, le credo, hein, du nihilisme contemporain, hein, de l'athéisme contemporain, ça commence aussi dans un jardin. Vous voyez, c'est dans un jardin que ça se passe. Vous voyez, hein. Mais il y a deux manières de voir le jardin. On va le voir. Le jardin d'Éden. Et puis le dernier jardin, c'est le jardin de la résurrection, vous savez. Et oui. Tout se passe dans un jardin. On va le voir, et il y a des arbres. Mais vous voyez, Roquentin, ben non, ça ne lui dit rien. Et je dirais que toute l'histoire de Dieu avec l'homme, eh bien, repose sur un terrible malentendu. Alors, je joue un petit peu à Jacques Lacan, hein. Je fais malentendu, trait d'union entendu. Hein. C'est, on entend mal. L'homme n'écoute pas la voix de son Père, qui pourtant ne cesse de lui prodiguer sa présence d'amour. Oui, Dieu n'est qu'amour et miséricorde, dira la petite Thérèse. Ne serait-ce qu'en donnant l'homme à lui-même et en le faisant héritier de ce miracle de la nature, de la création, le premier livre où Dieu se dit précisément. C'est la création. Mais l'homme ne veut pas écouter. Il a cette possibilité-là, évidemment. Puisque je vous dis, la liberté est la condition même de l'alliance. Sans liberté, pas d'alliance, pas d'amour possible, c'est pas possible. Pas de réciprocité possible, vous comprenez ? Et comme il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, eh bien, l'homme s'enferme en lui-même. En fait, il crée son propre enfer concentrationnaire. Il bannit tout appel de la transcendance divine qui est bienfaisante pour nous, pourtant, mais vous allez voir pourquoi il perçoit la transcendance divine comme une menace. Nous allons le voir, parce que précisément, c'est une des conséquences les plus terribles du péché originel. C'est la peur de Dieu. Mais nous allons le voir. Hein ? Mais Dieu, lui, il reste égal à lui-même. Il est Dieu de toute éternité, il ne change pas. Hein ? Tous les Grecs nous l'ont bien dit, hein ? Un moteur immobile. Mais attention, quand Aristote dit moteur, déjà, bon, enfin, c'est complètement incompréhensible maintenant, parce que moteur, on voit surtout le moteur de la voiture, bon, non, celui qui fait justement, qui est la cause, le principe du monde, la cause première du monde, mais qui ne change pas, hein, qui ne change pas, qui est immuable, si vous voulez. Donc, Dieu ne change pas, mais l'homme peut changer précisément, hein. Et justement, il perçoit Dieu comme un mirage, un mirage. Et ça, c'est Feuerbach, hein, qui a établi cette théorie. Hein. Il dit que l'existence de Dieu n'est qu'une projection de l'homme pour apaiser son angoisse de la mort, son désespoir. Voilà. Hein. C'est une projection. C'est un Dieu refuge, si vous voulez. Il faut inventer un Dieu pour que on se console avec lui. Mais c'est une illusion. Et il faut, justement, la grande chose, c'est qu'il faut s'extraire de cette illusion. Hein. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'inverse, voyez. C'est l'homme qui a créé son Dieu, hein, pour, précisément, eh bien, se réfugier en lui et échapper à l'angoisse. Alors, on va voir que ce n'est pas du tout, c'est pas si simple. Mais, en tout cas, ce dont on s'aperçoit, c'est que, et Martin nous a très justement parlé hier de cette quatrième étape de l'humanisme, qui est justement de prendre conscience de l'inhumanité, hein, au XXe siècle. On a eu effectivement des exemples absolument terribles de ce que l'homme était capable de faire, d'anéantir plutôt, parce que on va voir que le mal, c'est pas faire, c'est défaire, c'est détruire, et de ce que l'homme est capable de détruire, d'anéantir, hein, par sa liberté précisément, hein. Une liberté encore une fois dépassée par elle-même, et on va voir que c'est un mystère, parce que à l'origine de ce mystère du mal, il y a quelqu'un d'autre que l'homme. Le serpent. Il est dans le jardin. Oui. Mais voyez, le problème, c'est que l'homme ne vit pas seulement de pain. D'ailleurs, c'est une phrase que Jésus va répéter à Satan lui-même lors de la tentation au désert. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu, la source de tout amour et de toute vie. Mais en même temps, cette source de vie peut être vaincue par la tentation et la détermination après qu'à l'homme de se construire tout seul. Vous voyez, et Dieu est comme un amant et conduit qui aime sa bien-aimée, mais si sa bien-aimée ne l'aime plus, eh bien, il se retire. L'amour ne s'impose pas. Il faut le consentement. Il faut dire oui à l'amour de Dieu. Aucun amour, hein, aucun amour humain ne peut se réaliser sans un consentement mutuel. C'est impossible. Ça d'ailleurs, que vous savez que le mariage chrétien ne se fait pas avec le don des alliances, mais le don des alliances est le signe du consentement qui a été fait, hein, et qui constitue le mariage. Hein. Le oui des deux, hein, et en signe de ce consentement, on donne des alliances. Sans consentement mutuel, pas d'union possible. Donc, et ce qui est déjà vrai dans l'amour humain s'avère d'autant plus nécessaire en ce qui concerne l'amour divin. Rappelons-nous cette phrase traditionnelle de saint Augustin, mais qu'il faut rappeler encore et toujours, hein, parce qu'il y a une confusion théologique à l'heure actuelle qui ne tient pas compte précisément de la consistance de la liberté humaine et qui voudrait qu'on soit sauvé malgré nous. Or, saint Augustin dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. » C'est pas possible. Non, ce n'est pas un Dieu Père Noël, encore une fois. Ce n'est pas non plus un père fouettard, mais ce n'est pas non plus un papa gâteau, Père Noël, qui... Voilà. Ce serait alors à faire un dieu à son image. Méfions-nous des contrefaçons, ça, bien sûr. Le libre arbitre, et nous le verrons, je parlerai plus précisément de la liberté humaine, la conception chrétienne de la liberté humaine, la libertas dont parle saint Augustin. Le libre arbitre doit consentir à la grâce qui sollicite l'homme pour qu'il devienne libre de la pleine liberté des enfants de Dieu. Dire oui à Dieu. Un Dieu donc qui nous aime, et qui nous aime infiniment, bien entendu, tout en respectant infiniment notre liberté. Oui, l'amour contraint n'est plus de l'amour, hein, c'est du viol. Hein. Faut bien voir, c'est... Donc, Dieu ne peut que nous inviter à l'aimer, jamais à nous y contraindre. C'est là toute l'histoire, on va le voir, toute l'histoire du début jusqu'à la fin de l'Écriture, c'est une histoire d'amour finalement commencée avec la création, puis avortée. Avorté d'une certaine manière par la liberté de l'ange et de l'homme, puis renouvelé absolument par l'amour que Dieu nous porte toujours, mais que notre liberté doit ratifier dans une confiance restaurée par la foi dans le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Voilà, c'était mon petit préambule, hein, l'introduction à la dissertation. Vous savez, il faut toujours préparer, on dit qu'il faut, j'ai affaire à des professeurs de philosophie, alors il faut toujours préparer ce qu'on va dire après. Hein. Bon, là c'est un petit peu le préambule. Ce qu'il faut bien voir donc, c'est que la création est bonne. Voilà, avant le péché, attention, hein. Tout ne commence pas par le péché, hein. Ouf. On serait mal sinon. Hein. Et tout ne commence pas par le mal. Attention, la création, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Hein. Contrairement à ce que, alors, bon, à ce que des hérésies, des hérétiques ont pu penser, enfin, de la philosophie, enfin, pas des hérétiques, des gnoses, comme les manichéens, les dualistes, etc. La création voulue par Dieu et parce que elle existe par la volonté de Dieu est bonne. Et d'ailleurs, Dieu vit que tout cela était bon, hein, c'est le refrain qui revient sans cesse, hein, dans le premier chapitre de la Genèse, hein, chapitre de la création. Hein. Le mal n'est pas dans la création, ni dans la matière. Ni dans la matière, comme l'ont pensé les manichéens, les dualistes. Les manichéens, c'est il y a un dieu du bien, il y a un dieu du mal. Enfin, il y a deux principes, hein, ténèbres, lumière. Hein, alors que les dualistes, bah, la matière, elle est mauvaise. C'est dans la matière, ça va pas. C'est pas possible, on n'est pas hors du divin. Il y a du mal. Ah, vous savez, on retrouve cette gnose, malheureusement, dans certaines thèses qui sont avancées. Bon, enfin, je ne parlerai pas de pseudo-théologie. Non, la création donc est l'œuvre de la lumière divine. Que la lumière soit et la lumière fut. Jour 1. Ce jour 1 résume toute l'œuvre de Dieu. Elle est belle à voir, elle est bonne, elle est lumineuse. Elle sera même très bonne au moment de la création de l'homme et de la femme. Mais cette création, attention, n'est pas achevée. Elle n'est pas parfaite. Non, elle est créée perfectible, en état donc de voie, de cheminement. C'est pour ça qu'on parle d'homo viator, l'homme en chemin. Vers une plénitude à laquelle Dieu l'a destinée dans sa providence. Si Dieu est le maître souverain de son dessein de création, il veut cependant se servir aussi du concours de ses créatures. Voilà, il faut bien comprendre cela. Mais pourquoi? Mais Dieu, il aurait pu nous faire comme des robots, ça aurait été beaucoup plus simple, des robots. Ben oui, mais justement, un robot, il n'aime pas. J'ai déjà vu un robot qui aime. Non, il est télécommandé. Il dit ce qu'on lui dit de faire. Mais Dieu n'a pas envie de faire une reproduction. Non, c'est ça la richesse. Vous voyez, c'est ça la richesse de la création. On est tous différents parce qu'on est tous uniques. Vous voyez. Et Dieu aime cette richesse. Et les robots, ils sont standardisés. Ce n'est pas donc un signe de sa faiblesse, hein, d'avoir besoin du concours de ses créatures. Au contraire, c'est un signe éminent de sa bonté. Il ne veut rien faire sans nous. Il peut faire sans nous, mais il ne veut rien faire sans nous. C'est ce qu'on appelle, théologie, on parle de cause première et de cause seconde. Hein, la cause première qui est Dieu et les causes secondes, c'est nous, ces créatures raisonnables. Bon, mais attention, ça ne veut pas dire secondaire précisément. C'est pas secondaire. On a une réelle consistance. C'est ça qui est extraordinaire. On n'est pas manipulé par un potentat. Vous voyez, un dieu despote qui voudrait nous écraser par sa toute-puissance. Ça n'a rien à voir. Il veut que l'on, librement, il nous donne, hein, la dignité d'agir par nous-mêmes, d'être aussi cause et principe les uns des autres, et donc de coopérer à l'accomplissement, hein, nous-mêmes, de son dessein créateur. Voilà. Il ne veut rien faire sans nous. Et voilà pourquoi il demande à l'homme et à la femme, au verset 28 du premier chapitre de la Genèse, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Soumettez-la. Et l'homme est véritablement lieutenant de la création. Il est précisément au sommet de cette création. Hein. Dieu donc a voulu nous faire participer à l'œuvre de sa création pour la parfaire. Et il nous donne tout ce qu'il faut pour être de digne coopérateur ou intendant de sa création. Plus encore, et là je vais citer le père Jean-Miguel Garrigue, dans un immense ouvrage que je vous recommande d'apporter ici, ça c'est la première édition, mais il y en a une toute dernière aux éditions Ad Solem, un chef-d'œuvre de théologie, ça s'appelle « Dieu sans idée du mal ». Voilà, ça c'est excellent. Voilà ce qu'il écrit. Au moment où Dieu crée l'homme, il n'est créateur qu'en tant que père. La création de l'homme n'est pas la création d'un élément du monde, du cosmos parmi d'autres. Elle exprime un dessein de grâce en manifestant le désir du cœur de Dieu. D'ailleurs, Dieu se donne à lui-même un conseil. Il parle à la première personne. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Vous voyez, pour l'homme, c'est ainsi. Hein, alors que pour les autres, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil divin. Hein. Au centre du monde, Dieu introduit non seulement une réalité de plus, mais le reflet même de son propre visage dans une communion de personne à personne. Dans une communion de personne à personne. C'est pour cela qu'il dévoile dans l'homme son visage de père, car en lui, la toute-puissance de l'acte créateur s'achève en quelque sorte dans la toute-puissance de la paternité. Dieu crée pour que nous soyons ses enfants. Eh oui. Cependant, puisque l'homme est tiré du néant par la puissance de Dieu, la sagesse et la bonté de Dieu son Père, tiré du néant, c'est cela exister, hein, existere, se tenir hors du néant. Il y a une contingence métaphysique absolument profonde, hein, qu'on explorait à un moment donné, quand on faisait encore de la métaphysique, justement, une contingence profonde de l'existence humaine, de tout existant d'ailleurs. Hein. À partir du moment, la contingence, c'est le fait d'être, mais d'avoir la possibilité de ne pas être. On aurait pu ne pas être. Nous avons l'être, nous ne sommes pas l'être. Donc, l'homme est tiré du néant. Et voyez, donc, dans l'existence même, il y a une contingence profonde qui fait qu'il y a une dépendance profonde à l'égard de la cause première, de celui qui existe et qui nous donne d'exister. Hein ? Et dans le domaine de la liberté, on va voir, c'est exactement la même chose. L'homme ne peut rien s'il se coupe de son origine. J'aime beaucoup cette phrase du Concile Vatican II qui dit « La créature sans le créateur disparaît. » La créature sans le créateur disparaît. C'est dans Gaudium et Spes. Il peut encore moins atteindre sa fin ultime, la béatitude de Dieu, qui est la finalité en vue de laquelle il est fait, il ne peut pas l'atteindre sans l'aide de la grâce. Voyez, on va le voir tout au long de cette investigation donc du livre 3 de la Genèse, surtout qui nous parle de l'origine du mal, hein, donc avec ce qu'on a traduit traditionnellement par le péché originel. Il faut bien comprendre. Vous allez voir que Dieu nous a, dès le début, ordonné à sa béatitude. La fidélité de l'homme, c'est sa vocation divine. Il n'y en a pas d'autre. La nature humaine n'est pas concevable pour Dieu en dehors de ce dessein, de cette fidélité surnaturelle. On va y revenir, hein, parce que là, je vois, là, je ne comprends pas trop. Vous inquiétez pas, on va vraiment, je vais vraiment y revenir. C'est très important de comprendre ça. On va passer toute la journée hein, là-dessus, hein, donc vous inquiétez pas. Puis il y aura samedi aussi, si vous avez des questions. Hein. Pas de problème, vous les notez, et puis j'essaierai d'y répondre. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme ne peut pas atteindre sans Dieu sa fin ultime, hein, mais cependant, Dieu, parce qu'il veut qu'il y ait une réciprocité d'amour, ne veut en aucun cas violenter la liberté de l'homme, s'imposer d'une manière despotique, dictatoriale à lui, et je dis toujours que la toute-puissance de Dieu finit là où commence l'autonomie de l'homme. Et oui. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Dieu aime tellement cette liberté humaine qui est la condition même de l'alliance, hein, voyez. Il aime tellement l'amour, si vous voulez. Dieu aime tellement l'amour, voilà, qu'il laisse l'homme libre. Est capable donc de défaillir. L'homme est capable de défaillir puisqu'il est libre. Nous touchons là au scandale de l'existence du mal, qui paraît si inconciliable avec le mystère d'une création que Dieu a voulu et déclaré bonne. Et voyez le grand problème qu'il y a, si on n'est pas au clair là-dessus. On va dire, qu'est-ce qu'on va dire aux athées? Et qui nous prennent d'ailleurs pour de doux rêveurs, quelquefois. Ils sont complètement cinglés, ces cathos, franchement. Ils disent que Dieu est bon. Ah bah dis donc, mais ils n'ouvrent pas les journaux, je ne comprends pas, moi. Pourquoi il y a la souffrance du mal dans le monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il faut entrer dans le mystère du mal, voyez. Il a bien dit hier, Martin, il faut entrer, il ne faut pas échapper aux gouttes quand il pleut, voyez. C'est, le chrétien, il n'échappe pas aux gouttes hein, de pluie. Ah non, c'est pas possible, ça. Alors, on a un parapluie, oui, c'est vrai, il peut y avoir des parapluies. Mais on est dans le mystère de l'existence humaine, dans l'humanité, et donc, effectivement, il faut prendre avec nous hein, absolument la souffrance des hommes et le mal des hommes, voyez. On ne peut pas être fleur bleue, cuit-cuit les petits oiseaux. Hein. Sinon, on n'est pas recevable, justement, on n'est pas recevable. Le mal, donc, est une pierre d'achoppement, hein, à l'heure actuelle et pour cause, hein, pour ceux qui n'ont pas la foi. Parce que c'est un mystère que l'Écriture, heureusement, seule, je dirais, nous permet de mieux comprendre, parce qu'elle nous révèle, donc, à travers donc, ce chapitre 3, ce fameux chapitre 3 de la Genèse, que le dessein bienveillant de Dieu, qui ne peut être que bienveillance, il n'est qu'amour et miséricorde, peut être non pas arrêté, mais en tout cas dévié. Par qui? On va le voir. Le catéchisme de l'Église catholique nous donne une piste au numéro 311. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. Numéro 311, c'est clair. Comme l'est tout le catéchisme de l'Église catholique. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est donc ce péché universel, que l'on appelle originel, qui nous est décrit dans le chapitre 3 de la Genèse. Encore une fois, un chapitre incontournable pour celui qui veut mieux comprendre, pour mieux croire. Hein, vous voyez, la foi, c'est les anciens, les médiévaux qui disaient ça, hein, la foi comprend pour mieux croire. La foi, ce n'est pas de l'ordre irrationnel, absolument pas. Suprarationnel, mais jamais irrationnel. Attention, c'est la grande erreur. La foi du charbonnier, bon, j'ai rien contre les charbonniers, mais enfin bon, il y a mieux que la foi du charbonnier. Vous voyez, la foi est suprarationnelle, mais elle n'est pas irrationnelle. Hein, d'ailleurs, la foi se greffe sur l'intelligence, sur la raison, précisément. Alors certes, ce dogme dont nous allons parler, qui est pour moi intangible, pas seulement pour moi, j'espère, pour la tradition en tout cas, comme disait Pascal, le dogme le plus incompréhensible de tous, mais sans lequel pourtant l'homme est incompréhensible à lui-même. C'est une phrase géniale, j'aime beaucoup. J'aime pas tout Pascal, hein, bon. Mais là, quelquefois, il y a des traits de génie. Hein, vous voyez, le dogme le plus incompréhensible de tous, mais sans lequel pourtant l'homme est incompréhensible à lui-même. Vous voyez, pourquoi c'est tellement important de rentrer dans ce mystère, vous voyez. Alors ce récit, on a toujours ce récit, mais vraiment, mais vous croyez, vous rendez, ils ont croqué la pomme et tout, moi vraiment, franchement mon père, mais c'est pas sérieux ça. Avec la science actuelle, vous rendez compte? La technologie actuelle, vous y croyez encore, ça? Faribole d'un autre âge, écoutez, non. Depuis le Concile Vatican II, non. Ah, vous allez voir, c'est un récit de sagesse. C'est pas parce que c'est volontairement simple et imagie que ce n'est pas moins lourd de sens. Attention, au contraire. Méfions-nous. On croit que c'est plus c'est compliqué, mieux c'est. Ah non. La simplicité, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus dur. Dieu est simple. Et sont donc dans un récit très simple qu'il va nous parler, mais attention, attention, il va bien falloir comprendre que dans cette simplicité, c'est comme dans toute l'écriture, hein, voyez, vous avez une lecture fondamentaliste, et puis après vous avez d'autres lectures possibles, voyez, allégoriques, symboliques, théologique, spirituel, mystique, enfin bref, on avait plein de tiroirs, hein, vous savez. Ce récit nous montre comment le premier homme et la première femme ont été amenés à s'opposer à Dieu. Mais voyez bien, c'est au chapitre 3 de la Genèse, il y en a deux avant, il y a deux récits de création, pour vous faire bien comprendre que d'abord ce qui précède ce péché, et d'abord ce qui est important pour Dieu, c'est le dessein qu'il a sur cette création, sur notre création qui est résolument bonne. Hein? Et après la corruption du péché, de toute façon, l'homme reste orienté vers le bien, fondamentalement. Hein? Mais, donc, nous allons entrer donc dans ce chapitre. Hein? Mais auparavant, nous nous arrêterons au chapitre précédent, Genèse 2, au verset 9, qui mentionne deux arbres. Vous voyez, deux arbres, une question véritablement d'arbres. L'arbre de la vie, dont l'homme peut manger, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui est interdit de manger. Sous peine de mort, Genèse 2, 17. J'aime bien cette traduction, sinon vous mourrez de mort. J'aime bien cette redondance, hein, qui est presque ce pléonasme, mais qui n'en est pas un, parce que Dieu avait un autre projet que celui de mourir de mort. C'est celui de mourir d'amour. Et vous mourrez de mort. Et c'est pas ça que je voulais, moi. De toute façon, Dieu est sans idée du mal. Ça c'est très important, c'est une idée que développe Jean-Miguel Garrigue. D'après saint Thomas d'Aquin, Dieu ne peut être que sans idée du mal. Il n'y a pas de mal en Dieu, c'est pas possible. Il est le souverain bien, incréé, mais le souverain bien, il est l'amour, l'éternelle communion d'amour. Hein? Donc, alors, l'arbre de vie, tout d'abord. L'arbre de vie, quel est-il ? Eh bien, cet arbre de vie donne à Adam une vie semblable à celle de Dieu, et eh oui, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, voyez ? Et c'est cette ressemblance, cette similitude, si vous voulez, qui fait que dès l'instant de sa création, l'homme est capable, par grâce, de dialoguer avec Dieu et avec ses semblables dans l'amour de Dieu, dans la charité. Voyez, c'est ça l'arbre de vie. Hein, l'arbre de vie, c'est le lien filial avec Dieu, notre Père. Hein. Et cette vie semblable, donc, cette vie, c'est pour ça que les pères de l'Église diront qu'avec le péché, nous perdons la ressemblance, mais jamais l'image de Dieu. Hein, l'image de Dieu, c'est notre âme, avec toutes ses puissances naturelles, intelligence, mémoire et volonté, hein, que l'on ne perd pas, évidemment. Hein, mais nous perdons, cette ordination hein, à la vie de Dieu. C'est une rupture filiale. Hein. Et Dieu, dès l'instant de sa création, prédestine l'homme hein, à un bonheur surnaturel, mais que l'homme, c'est une grâce, est incapable d'acquérir par lui-même. C'est pour ça que c'est surnaturel. Hein. Surnaturel, ça veut dire simplement au-dessus des forces de notre nature. Voyez, ça ne veut pas dire, c'est pas Gérard Majax qui fait des... Vous voyez, le surnaturel, on croit toujours, c'est le para... comment on appelle ça, là la médiumnité, enfin, hein, le paranormal, voilà, le paranormal, on croit toujours, le surnaturel, c'est le paranormal, le truc un peu, mais non, le surnaturel, hein, c'est au-dessus de nos forces, voyez, ça veut dire ça, au-dessus de notre nature, de notre capacité naturelle, voilà. Et ça, c'est cette ordination, si vous voulez, au bonheur surnaturel, à la plénitude de vie de Dieu, si vous voulez, à laquelle donc Dieu nous prédestine dès notre création. Hein, nous sommes ordonnés à cela, hein, mais c'est une grâce. C'est pour cela que. Je cite toujours cette phrase du père Philippe de la Trinité dans un article magnifique qui s'appelle « Dieu de colère ou d'amour dans les études carmélitaines » 1946, amour et, le numéro qui est intitulé, qui a pour thème « Amour et violence ». Adam et Ève, éclairés de façon incomparable par le don de science, protégés contre la souffrance et la mort par le don d'impassibilité et d'immortalité, maîtres d'une chair qu'ils dominaient à la perfection par le don d'intégrité, Adam et Ève, s'ils étaient restés fidèles à l'ordre divin, fussent demeurés élevés au-dessus de leurs propres conditions, pour tendre plus aisément au cours de leur pèlerinage terrestre à la joie finale de la vision béatifique. C'est-à-dire, si vous voulez, que... Oui, mais... Ils seraient demeurés élevés au-dessus de leurs propres conditions. Par cette grâce, précisément, que l'on ne peut pas obtenir par soi-même. Bien comprendre cela. C'est ça l'arbre de vie. Le père Garrigue dit « Dieu donne à l'homme qu'il introduit dans le monde son image, c'est-à-dire la liberté de l'esprit. Il l'insuffle en lui pour qu'il puisse répondre à la grâce de communion qui lui donnera la vie immortelle. » Vous voyez, lui, il est plutôt, c'est pas comme les pères qui séparent image et ressemblance. En fait, l'image de Dieu est déjà investie par l'Esprit Saint, hein, par l'Esprit de Dieu, hein, et cette liberté de l'Esprit, hein, pour qu'il puisse répondre à la grâce de communion qui lui donnera finalement la vie immortelle. L'arbre de vie, mais la vie de Dieu, pour toujours, la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus va rendre à l'humanité, la seule chose qu'il promet, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. seule promesse. Et oui. Rien ne change apparemment, et tout change. Bon, on va le voir. Alors, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors. Hein ? Alors, il faut entendre non pas la possibilité qu'a l'homme de discerner le bien du mal, puisque sa conscience d'être libre et intelligent le lui permet, mais attention, la défense qui lui est faite par son Créateur d'outrepasser ses limites de créature. Vous voyez ? Hein ? C'est-à-dire que si l'homme décide par lui-même de déterminer, par lui-même donc, ce qu'est son bien et son mal, il devient alors, comme dit le père Barthélemy, dans un autre grand livre fondamental qui s'appelle « Dieu et son image », et auquel je fais droit dans cette... je rends hommage dans cette conférence, parce que c'est constitue vraiment un de mes livres vraiment de chevet, je dirais, auquel je reviens sans cesse. Donc le père Barthélemy, « Dieu et son image », aux éditions du Cerf, Foi vivante, hein, c'est vraiment pas cher, et ça peut rapporter gros. Eh bien, l'homme devient le principe de sa propre conscience morale. En fait, ce qu'il faut comprendre, il devient son propre principe, son propre père. Et vous comprenez bien que là, c'est là où le bât blesse, parce qu'il a un principe de vie sans lequel il ne serait pas. Et il commet la tentation qui est celle de l'ange, on va le voir, qui précède la tentation de l'homme, à savoir que on peut se couper de la source de son être. La créature, dit encore le père Philippe de la Trinité, peut ne pas accepter de n'être que ce qu'elle est, et donc vouloir refuser sa condition d'enfant docile au père. Parce qu'elle est capable d'aimer, elle peut aussi se révolter. Vous voyez ? Parce qu'elle est capable d'aimer, elle peut aussi se révolter. Et Garrigue, la création est l'héritage de Dieu donné à l'homme. L'héritage, l'importance de l'héritage. On le voit dans l'enfant prodigue. Hein. La création est l'héritage de Dieu donné à l'homme. Tout désormais va se jouer autour de cet héritage. L'héritage de la création n'est en fait qu'une partie de l'héritage que Dieu promet à l'homme. Une partie seulement de l'héritage. Le problème, c'est que l'homme veut cette part-là pour lui. Alors que Dieu ne veut pas donner seulement cette part, il veut tout donner. C'est un péché de cupidité, de convoitise, d'avarice, je dirais, et en même temps, malice de l'esprit. Hein ? Parce que, en le faisant à sa ressemblance, Dieu a donné à l'homme quelque chose d'infiniment plus précieux que le jardin de sa création. Il lui a donné de vivre et de croître dans la communion d'amour avec lui. Et l'héritage véritable pour l'homme, dit le père Garrigue, c'est Dieu le Père lui-même. C'est Dieu le Père lui-même. L'héritage, il n'y en a pas d'autre que cela, que celui-là. Or, nous dit Jean-Miguel Garrigue, l'homme qui héberge à la liberté a la possibilité de se situer vis-à-vis de l'héritage de deux manières différentes. Ou bien, il peut mettre la main sur la création comme étant la part d'héritage que Dieu lui doit. Vous voyez ? Et faire de sa liberté, en quelque sorte, l'exploitant, sinon le dévastateur du monde. Ou bien, il peut mettre au centre de la croissance de sa liberté le désir d'entrer en possession de l'héritage entier, de l'héritage entier, total, et de ne rien s'approprier en le décrochant du bien le plus précieux qui est Dieu lui-même. L'erreur du péché originel. Jésus l'explique très bien dans la parabole de l'enfant prodigue. Dieu voulait donner à l'homme l'héritage entier, tandis que le fils prodigue demande sa part d'héritage. Mais quelle part d'héritage? Quelle part d'héritage? L'héritage est indivisible, car c'est l'amour du Père. Il est le Père lui-même. Et c'est ce que dira d'ailleurs le Père au fils aîné, mais toi, ce que dira aussi Jésus lui-même au Père dans sa prière sacerdotale, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. On voit bien que c'est un péché d'appropriation, de convoitise. Encore une fois, sous couvert de bien, on va le voir, sous couvert de bien. Ouais, toujours sous couvert de bien. Mais c'est le piège du démon, justement. Et il ne tente pas par le mal, mais par le en faisant voir ce qui est d'abord la conséquence du mal. Mais d'abord, il nous fait entrevoir faussement le faux bien. Un bien qui, finalement, va s'avérer mauvais. Donc, voyez, les deux arbres du paradis représentent les deux faces de la liberté humaine. L'arbre vie représente la liberté à laquelle Dieu appelait l'homme pour que, entourée de son amour et de sa grâce, elle croisse librement dans la communion avec Dieu, son bien suprême. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on pourrait dire, c'est comme l'ombre de l'arbre de vie. C'est la face ténébreuse, si vous voulez, de la liberté humaine. Liberté entendue comme libre arbitre. Une liberté qui est encore donc imparfaitement en communion avec Dieu. Et oui, il y a une croissance, il y a un chemin. Et qui est invité donc à croître dans l'ouverture à Dieu, tout le temps, dans l'ouverture à Dieu. Or, nous voyons bien, le péché originel est une fermeture, précisément, à la source. L'arbre de la connaissance du bien et du mal s'entend de la liberté humaine qui, sous l'influence du démon, du serpent, nous allons le voir, ou nous le verrons plutôt cet après-midi, se pervertit pour fixer les propres limites de son héritage. Au lieu de celui de l'héritage de Dieu, qui est Dieu lui-même, eh bien c'est celui que son caprice désormais lui offre. Mesuré par les seuls critères d'une liberté qui décide par elle-même, non pas selon Dieu, ce qui est, eh bien, qui décide ce qui est bien et mal, qui gère par elle-même le monde qu'elle a reçu en héritage, mais sans plus tenir aucun compte de l'héritage entier. L'homme, finalement, se borne à lui-même. Et dans cette limite, nous pouvons justement entrevoir toutes les limites de l'homme qui librement se limite, se borne à ce qui ne peut le combler, le satisfaire pleinement. Parce que celui qui seul peut le combler, eh bien c'est le Père, mais dont il n'a perdu l'héritage. Ou du moins, dont il n'a plus qu'une seule part, mais cette part-là qu'il possède. Et c'est bien de dire posséder comme on est possédé, vous voyez, qu'il possède, eh bien, ce n'est pas l'héritage entier. C'est l'arbre qui lui cache la forêt, puisqu'on a parlé des arbres, peut aussi, c'est l'arbre qui justement cache la forêt entière, vous voyez. Cet arbre, c'est l'arbre dont la connaissance du bien et du mal. Et nous allons voir que ainsi l'homme reprend à son propre compte la malice même du serpent qui le tente. Je vous propose donc cet après-midi de voir quelle est la physionomie, de faire donc une physiologie spirituelle donc du serpent de la Genèse.